tirer sur son bras pour pouvoir suivre dans certains versets. Ce matin, je vais me promener dans toutes sortes de passages des Écritures. Ça va aller très, très vite. Mais il y a deux versets où vraiment je veux qu'on prenne le temps de tourner ensemble. Alors, je vous demande déjà d'y aller. J'aimerais vous demander aussi si vous n'avez pas reçu le feuillet. C'est très important. Il y a une feuille de notes dedans. Je vais me promener dans tellement de passages. Je voulais avoir cette feuille-là dans les mains pendant que qu'on va se promener ensemble dans la parole. Alors, juste levez la main si vous n'avez pas reçu le feuillet. Les placeurs vont vous en remettre un. Prenez la feuille de notes qu'il y a à l'intérieur. On a eu un bon temps de louange? Hein? Juste ça, on a eu un bon temps de louange? Ben, moi, j'ai été béni avec la chorale, vraiment. C'est toujours une joie de les avoir avec nous. Ce matin, c'est le grand départ. On décolle pour notre voyage de 40 jours ensemble. À la recherche de la face de Dieu, pour toutes sortes de raisons, on a des objectifs personnels, on a des raisons très personnelles, diverses d'embarquer dans cette campagne. Mais chacun d'entre nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut chercher la face de Dieu ensemble. C'est ça qu'on veut faire. Et juste avant de commencer, je voudrais mentionner à nouveau, on a, pendant la campagne, on fait un spécial au niveau de l'instruction chrétienne pour les adultes. C'est-à-dire que toutes les classes sont rassemblées ensemble. Et ce matin, on avait une conférence spéciale dans le cadre de la campagne avec Joël Lapierre. Et pour chacune des semaines, on va avoir un enseignant différent. Donc, la semaine prochaine, le sujet qui va être abordé, ça va être l'adoration dans le sujet de la campagne. Mais le but de cette période-là, c'est d'aller beaucoup plus loin. La campagne est très, très, très axée sur l'application, sur la pratique. Et c'est important de le faire. Souvent, la connaissance est comme ça. Et la pratique ressemble plutôt à ça. Et on veut honorer le Seigneur entièrement. Mais on ne voudrait pas négliger de se pencher sur les Écritures et de donner vraiment un fondement solide à toute notre démarche. Alors, je vous invite à être en grand nombre dimanche prochain, de 9h à 10h, pour l'instruction chrétienne pour les adultes sur le sujet de l'adoration. C'est d'autant plus important que pendant la campagne, il y a du matériel particulier qui a été remis à vos enfants. Ce matin, vos enfants qui étaient à la première partie à l'instruction chrétienne pour les enfants à l'école du dimanche se sont vus remettre un cahier. Si jamais vous désirez vous joindre et que vos enfants assistent, je vous demanderai de vous adresser dans l'entrée. On va s'assurer de remettre un cahier comme ça pour vos enfants si vous voulez vraiment vous engager à venir toutes ces semaines-là. Voyez-vous, pendant la campagne, chaque enfant, pour chaque groupe d'âge, j'ai ici un cahier pour les 4 à 7 ans, les 8 à 12 ans, les adolescents, ont du matériel dans lequel ils peuvent méditer tous les jours, comme vous. Savez-vous, vous avez le livre, une vie, une passion, une destinée pour pouvoir aller étudier des passages des Écritures, mais vos enfants ont un cahier dans lequel ils peuvent méditer à tous les jours. Et lorsqu'ils viennent le dimanche matin, le moniteur d'école du dimanche va travailler en complémentarité avec ça. Sur la base de ce qui a été vu dans la semaine, on va aller plus loin encore. Maintenant, je sais que c'est pas toutes les familles qui ont intégré dans leur discipline familiale, dans leur tradition de famille, de prendre un temps dans la parole en famille à tous les jours. Le premier, je vous confesse que je ne suis pas toujours fidèle dans ça. Mais là, on vous donne une opportunité en or, je vous le dis. Parce que vos enfants, si je prends les 4 à 7 ans, ont du matériel vraiment adapté, simple. Ça ressemble à ça. Un bricolage, un dessin avec 2-3 questions. Tellement simple que vous voulez aller plus loin avec votre enfant. Pour les 4 à 7 ans. Alors, c'est juste un point de départ. Vous lisez votre chapitre. Après ça, vous regardez ça le soir autour de la table, au souper. Vous passez à travers la matière avec les enfants des différents groupes d'âge. Et évidemment, ça va de plus en plus complexe jusqu'à un espèce de résumé pour les adolescents d'une page avec des questions à méditer pour la journée. Alors, eux peuvent décider de faire ça le matin. Et on revient ensemble au souper puis on échange. Et comme vous êtes allés plus loin comme parents, vous êtes capables de prendre vos enfants là où ils sont et les amener beaucoup plus loin dans la parole de Dieu. C'est vraiment une super belle opportunité qui vous est offerte. Et ça demande de prendre une décision, de choisir ce matin, en famille, choisir de vous engager à fond et d'utiliser les ressources que Dieu met à votre disposition. Et vous allez voir, faites ça pendant 40 jours. Après ça, vous allez venir nous voir et vous allez dire, « OK, Yannick, c'est quoi que je prends avec ma famille? » On va vous montrer d'autres matériels, les explorateurs, tout ça, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il y a de l'excellent matériel. Mais ça vous demande ce matin de faire un choix. De prendre une décision, de choisir ce matin, de vous engager à fond afin que vous, votre couple, les amis autour de vous, vos enfants soient bénis, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur pendant ces 40 jours. Alors, vous avez votre résumé entre les mains, vous avez une Bible entre les mains, vous êtes prêts à tourner dans des passages. Ce matin, on commence enfin ce grand voyage, ça fait des mois qu'on travaille dessus. Il y a même des gens qui se sont présentés chez moi cette semaine à 9h le soir. Ils ont fouillé dans ma cour pour venir voler des choses pour faire des décorations. J'étais curieux de retrouver des choses qui viennent de chez nous. Vous ne pourrez jamais imaginer c'est quoi qui est derrière ça. Je vous mets au défi de venir me voir me dire c'est quoi qui est derrière, d'accord? D'essayer de trouver c'est quoi qui est derrière ça. Ça appartient à mes enfants. OK? Ça fait des mois qu'on se prépare pour cette campagne-là et qu'on se prépare dans la prière. On veut que le Seigneur vienne nous rencontrer, on veut qu'il vienne nous bénir et je vois qu'il y a beaucoup de visiteurs ce matin. C'est pas trop tard pour embarquer dans la campagne, c'est encore le bon moment, je vais en parler tout à l'heure. Mais ce matin, on commence la campagne en répondant aux trois plus grandes questions de la vie, juste ça. Les trois plus grandes questions de la vie. La première, la question de l'existence. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? La deuxième question, la question du sens, ma vie compte-t-elle? Est-ce que ma vie sert à quelque chose en bout de ligne? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ma vie aura servi à quelque chose? Est-ce qu'elle compte? Et troisièmement, la question de l'intention. Quel est mon but? Quel est mon objectif dans la vie? Où est-ce que je m'en vais dans la vie? Après quoi est-ce que je suis en train de courir? Maintenant, il me semble que c'est des questions simples, c'est des questions de base, c'est des questions que tout le monde se pose, non? Pensez pas. Tu t'arrêtes à un moment donné avec un café et tu te dis pourquoi je suis ici? Ça mène à quoi? Est-ce que ma vie a un sens? On n'a pas voulu s'arrêter juste à nos impressions cette semaine et puis on a dépêché un reporter spécial. La réponse, on l'a envoyé en fin de semaine dernière, on a envoyé la réponse, aller interviewer des gens pour essayer de voir ce que les gens avaient comme réponse à donner là-dessus. Je vous laisse avec notre reporter spécial la réponse et on revient tout de suite après.
Thank you.
C'est bon, hein? Je l'avais même pas vu. Ah, c'est génial. C'est génial. On cherchait, puis là, on a dit qui ferait ça. On a pensé à Pamela tout de suite. À Lara, à Lara. On a pensé à Lara, évidemment. Extraordinaire reporter. On va essayer de la faire revenir pendant la campagne. C'est sûr qu'il y a d'autres questions à poser, c'est sûr, sûr, sûr. Mais c'est surprenant à quel point... Moi, je suis surpris, puis il m'avait quand même un petit peu donné d'informations. J'avais eu un petit feed là-dessus. C'est surprenant à quel point les gens ne seraient pas pour répondre à cette question-là, c'est vrai? C'est incroyable. Et des fois, on commence à jaser avec des gens au travail, dans la famille, tout ça, puis tu vois que les gens deviennent mal à l'aise. Puis lorsque tu les pousses un petit peu plus loin, il y a toutes sortes de choses, des fois assez étranges, qui sortent comme réponse. Et pourtant, il me semble que c'est une question tellement importante. C'est une question qu'on se pose depuis des siècles. L'homme se pose ça depuis des siècles. Je vous amène dans un premier passage ce matin. Le prophète Jérémie. On commence à reculer pas mal loin dans le temps. Le prophète Jérémie lui-même s'était posé cette question-là. Et voici comment est-ce qu'il l'a formulé. Il dit « Pourquoi suis-je sorti du ventre de ma mère si je dois voir l'oppression et la douleur et achever mes jours dans la honte? » Vous entendez le cri du cœur? Jérémie regardait autour de lui, il y avait toutes sortes de déceptions. Et il commence à dire « Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi Dieu m'as-tu mis sur la terre si c'est seulement pour assister à cela? » Et d'une manière ou d'une autre, on s'est tous posé cette question-là. À un moment ou à un autre, on a dit « Est-ce que je suis là seulement pour souffrir? Est-ce que je suis là seulement pour vivre la misère, vivre du stress, vivre des déceptions? » C'est vrai? Puis même, il y a des gens autour de nous. Ça, les gens posent la question, puis ils disent « C'est-tu juste pour ça que je suis là? Moi, je suis juste là pour souffrir. Si c'est ça, peut-être que ça mène à rien. Peut-être que... » Puis là, ils arrivent à toutes sortes de conclusions. Hein? Mais vous voyez, Jérémie déjà avait soulevé cette question-là. Et chacun d'entre nous, on l'a fait. Je vous donne quelques citations ce matin. Archer Aslight Brilliant, un écrivain qui écrit des petites pensées intelligentes et humoristiques, en a écrit 9500 depuis 1967. Et voici ce qu'il a dit sur le sens de la vie. « Ma vie est comme une pièce de théâtre interprétée par une superbe distribution d'acteurs, mais je n'arrive pas à comprendre le scénario. » Ça fait du sens? Moi, je me suis senti comme ça à différents moments. C'est quoi le scénario, Seigneur? Je comprends pas. Je suis de l'autre côté de la tapisserie, puis je vois pas ce que tu as tissé, je comprends pas, ça fait pas de sens. L'humoriste Jack Handy a écrit « J'espère que la vie n'est pas une blague, parce que je ne la comprends pas. » Plus sérieusement, le docteur Hugh Moorhead, un ancien doyen de la faculté de philosophie de la Northeastern Illinois University, a fait une étude, il a publié un livre, et voici ce qu'il a fait. Il a pris cette question, quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie, et il a envoyé à 250 des philosophes, écrivains, scientifiques les plus connus dans le monde, les plus célèbres, et il leur a demandé leur réponse. Et il semble que le livre est pas mal déprimant à lire, honnêtement. Je vous donne quand même quelques réponses que certains ont données. Certains répondants ont proposé des hypothèses de réponse. D'autres ont admis qu'ils s'étaient inventé leur propre sens de la vie. D'autres encore ont honnêtement reconnu qu'ils n'avaient aucune idée du sens de la vie, et certains sont même allés à écrire au docteur Moorhead de leur communiquer le sens de la vie s'ils le trouvaient, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Maintenant, il y a aussi le grand psychanalyste Carl Jung, peut-être que vous avez déjà entendu son nom, un éminent chercheur dans ce domaine-là, et voici ce qu'il a dit, « Je ne connais pas le sens, le but de la vie, mais on dirait qu'elle a un sens. » Et à l'opposé complètement à Isaac Asimov, un écrivain extraordinaire de science-fiction, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages, un humaniste, un biochimiste, à ce que je vois, il n'y a pas de but. Ça, c'est sa conclusion. Et lorsque je lis ça, en me rappelant ce qu'on a vu tantôt, les réponses des gens, je trouve que c'est assez triste. C'est assez triste d'entendre ces choses-là comme réponse. Parce que c'est comme si les gens disaient « ma vie n'a pas de sens ». Et à quelque part, moi, la question qui vient dans mon cœur, c'est « Oui, mais est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si elle n'a aucun sens? Où tu t'en vas avec ça? Où est-ce que ça va t'amener? » C'est assez triste. Et vous voyez, lorsqu'on retire Dieu de l'équation, quand on essaie de répondre à cette question-là, en retirant Dieu de la réflexion, les réponses deviennent très, très, très étranges. Alors, les gens vont essayer de trouver des réponses, mais disons que c'est cousu de fil blanc. Plusieurs vont avoir l'approche suivante, l'approche mystique. À mon avis, c'est la plus répandue en Amérique du Nord et définitivement la plus répandue au Québec. Ça représente très, très bien les Québécois à cette époque-ci de notre société. Voici ce que l'approche mystique dit. Elle dit « Regardez à l'intérieur de vous-même et trouvez-y le sens de votre vie. » Vous avez entendu ça plein de fois. Ah, moi, je me suis fait quelque chose, j'ai trouvé ça à l'intérieur de moi-même, j'ai écouté. Il faut que tu sois en contact avec toi. Hein. C'est important d'être en contact avec toi-même. Écoutez ce qui se passe en dedans. Et c'est tellement présent que, il y a deux semaines, j'ai passé un après-midi à discuter avec quelqu'un qui est cher à mon cœur énormément. Celui qui m'a donné la vie, mon père. Et puis, on jasait ensemble, puis on avait du bon temps. Puis à un moment donné, mon père m'a dit, « Mais qu'est-ce qui t'a amené à croire en Dieu? Explique-moi, c'est quoi ton cheminement? » Parce que mon père connaît toute l'Église évangélique, il l'a fréquenté, tout ça, mais lui n'a pas adopté cette foi-là. Et puis, éventuellement, je lui ai relancé la balle. Toi, c'est quoi que tu crois, père? Où tu t'en vas? Comment ça fonctionne? Et à quelque part, c'était ça son résumé. À ce point-ci, très humblement, hein, sans prétention, il disait, à ce point-ci, c'est là que je suis rendu. Peut-être que c'est toi qui as raison, Yannick. Mais à ce point-ci, j'ai l'impression que je dois être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis la réponse se trouve là. Et je vous le dis, si la réponse se trouvait là, on connaîtrait tous le sens de notre vie. Parce qu'on l'a tous essayé d'une manière ou d'une autre. Et pareil comme vous, je n'ai jamais trouvé de réponse en écoutant à l'intérieur de moi-même. Et ça a été une partie de ma démarche. Au cégep, pendant quelques années, ça a été ça ma démarche. J'ai mis de côté la parole de Dieu, j'ai cherché ailleurs la réponse. Je n'ai jamais trouvé de réponse de cette manière-là. Et pourtant, la majorité des gens qui nous entourent, probablement plusieurs personnes ici ce matin, c'est votre approche. Jusqu'ici, c'est là que vous êtes rendu. Et à quelque part, je respecte ça. Chacun, on fait une démarche pour connaître le sens de la vie, connaître Dieu, découvrir si Dieu existe vraiment, adopter la foi, et c'est là que vous êtes rendu. Et ça, je respecte ça. Maintenant, les gens autour de nous, la majorité, c'est là qu'ils sont rendus. Et ils vont vous dire, écoute, je pense qu'il n'y a rien de fiable à part moi. Et je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est une des approches. Si ça marchait, on saurait tous où on s'en va dans la vie. Maintenant, il y a d'autres approches que vous pourriez adopter. Il y a quatre approches philosophiques. D'accord? Je vais juste les résumer très, très, très brièvement. Ça va permettre à certaines personnes de s'identifier eux-mêmes ou des fois de reconnaître des gens autour de vous et de comprendre un petit peu plus comment est-ce qu'ils réfléchissent. Des approches philosophiques. Premièrement, je l'appellerais l'adepte de survie. Pour lui, on est sur la terre simplement pour survivre. En d'autres mots, j'essaye de vivre aussi longtemps que je peux, et ça s'arrête là. Ça finit là. C'est des gens qui sont là pour survivre. Tirer ce qu'ils peuvent de la vie, essayer de survivre. D'autres philosophes ou d'autres approches philosophiques vont dire, celle du naturaliste, il dit, le but de la vie est de se perpétuer. En d'autres termes, vous êtes ici pour des raisons biologiques. Vous faites partie d'une grande chaîne et vous devez contribuer à cette grande chaîne-là. Et ça s'arrête à ça. Certains connaissent le chanteur de rap Ice-T. Ice-T résume ça comme ça, un peu vulgairement, je vais vous l'avouer, mais quand même, ça représente la pensée de plusieurs. Ice-T dit, « La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nous reproduire. Calmez-vous et reproduisez-vous, maintenez l'espèce en vie. » C'est un peu vulgaire. C'est un peu vulgaire, je l'avoue, mais en même temps, il y a bien des gens qui pensent ça. C'est tout ce qu'ils ont compris de la vie, ça se résume à ça. Et quand vous prenez le temps de discuter avec eux, ça se résume à ça. C'est pas rendu plus loin encore au niveau de leur réflexion. Une autre approche, c'est l'hédoniste. Très présent, probablement le deuxième le plus présent en Amérique du Nord, en Occident évidemment. L'hédoniste dit « Le but de la vie, c'est le plaisir. C'est de s'amuser, c'est de faire la fête. La vie est un gros, gros party et je dois tirer de ce party-là le plus de fun possible. » Le problème avec cette approche-là, j'en vois deux. Premièrement, le party va finir tôt ou tard. Et en général, vers la fin de la vie, le party devient de moins en moins le fun. Et le party s'arrête à un certain moment. Deuxième problème que je vois avec ça, cette approche-là a tendance à produire des gens extrêmement égoïstes. Parce qu'ils sont là pour tirer le plus de plaisir pour eux-mêmes, évidemment. Et c'est ça leur approche. Mais certains vont trouver comme sens à la vie cette réponse-là. La dernière aussi, très présente évidemment en Occident, le matérialiste. Le matérialiste dit « Tout ce qui importe dans la vie, c'est d'acquérir des choses. Votre vie se mesure à la quantité de choses que vous possédez. » Et évidemment, le problème avec ça, c'est que même si tu as beaucoup, beaucoup de jouets, celui qui meurt avec le plus de jouets meurt quand même. Évidemment. Fait que t'as beau accumuler tout ce que tu vas pouvoir accumuler, avoir un certain confort, tirer un certain confort de la vie, au terme de la course, t'as beau être celui qui a le plus de joujou, tu vas terminer pareil comme tout le monde. Et donc, ça répond pas véritablement au sens de la vie. Moi-même, Lorsque je suis allé au cégep, je vous dis, j'ai trippé sur la philo. J'aime encore la philo énormément. J'ai trippé dans ces cours-là. J'ai tellement aimé ça. Puis je me suis dit, c'est ça, je vais trouver une réponse rationnelle. Ma mère avait une foi évangélique, tu sais, puis c'est weird, cette gang-là, tu sais. Fait que c'était pas assez rationnel pour moi, cette approche-là. Il n'y avait pas assez de réponses. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Et j'ai dit, la philo va me donner des réponses. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la philo ne donne pas de réponses. Elle soulève des questions. Et en général, c'est ce que la philosophie fait. Elle soulève un paquet de questions sans nécessairement donner de réponses. Et si vous allez dans des librairies, si vous allez dans des grosses librairies, vous cherchez dans les livres, puis dans des livres de réflexion, de méditation sur soi, des livres de philosophie, vous allez trouver toutes sortes d'approches, mais qui reviennent toujours à la même chose. Vous devez inventer vous-même le sens de la vie. Trouvez-vous un but. Donnez-vous un but. Ils vont le formuler de toutes sortes de manières. Il va y avoir des approches qui vont dire « Découvrez vos rêves. Suivez vos buts. Ayez de l'ambition. Rêvez grand. Visez haut. Croyez que vous pouvez les atteindre. Croyez en vous-même. Trouvez ce pourquoi vous êtes doué. N'abandonnez jamais. Impliquez d'autres personnes. » Vous avez déjà entendu ça? Des espèces de pensées qui sont censées donner tout un sens à ta vie. Et il y a beaucoup de sagesse dans ces conseils-là. En fait, si vous les appliquez, probablement que vous allez avoir beaucoup de succès dans la vie. Beaucoup, beaucoup de succès dans la vie. Mais voyez-vous, c'est très différent le succès et trouver un sens à notre vie. C'est deux choses complètement différentes. C'est très, très différent avoir du succès, réussir et avoir un but dans la vie, savoir où on s'en va. Il y a une différence énorme. Vous pouvez avoir énormément de succès dans votre vie sans jamais savoir où vous vous en allez avec ça. Sans jamais savoir qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir, où est-ce que vous voulez aller. Parce que vous ne répondez pas à la question « Pourquoi suis-je sur terre? » Vous ne prenez pas le temps de répondre à cette question-là. Et cette question-là est beaucoup plus grande que votre épanouissement personnel, que votre confort, que votre paix intérieure. C'est une question qui est plus importante que ça. Parce qu'elle a une portée éternelle. La question est plus grande que ça. Alors, pourquoi Dieu veut-il que nous soyons là? Première question qu'on regarde ensemble. Pourquoi sommes-nous en vie? Pourquoi sommes-nous sur cette planète? Voici ce que la parole de Dieu dit. Vous pouvez regarder à l'avant. Dans Proverbes 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Dieu n'a jamais rien créé sans avoir un objectif en tête. Il n'y a aucune plante, aucune pierre, aucun objet qui existe sur la terre qui n'a pas été créé avec un but que Dieu avait en tête. Et lorsque Dieu vous a formé, lorsque Dieu nous a formé chacun d'entre nous, Dieu avait des objectifs pour chacun d'entre nous bien précis à l'esprit. Dieu n'a rien créé sans un objectif en tête. Comme on le disait la semaine dernière, Dieu ne permet même aucune épreuve dans votre vie sans qu'elle ne serve à quelque chose. Donc Dieu vous a créé avec des buts en tête, avec des objectifs en tête. Et si vous voulez savoir si Dieu a encore des buts pour votre vie, mettez votre main ici et écoutez votre cœur. S'il bat encore, Dieu a encore des projets pour vous. C'est vrai, je suis sérieux. Dieu gaspille rien. Dieu ne gaspille jamais rien. Si vous êtes encore en vie, Dieu a des objectifs pour votre vie. Parce que Dieu fait tout pour un but, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a toujours des objectifs. En fait, Dieu a 5 objectifs pour votre vie, et c'est ça qu'on veut voir ensemble pendant les 40 prochains jours. On veut étudier en profondeur ensemble les 5 objectifs que Dieu a pour chacune de nos vies. Et si vous embarquez avec nous à fond, vous allez pouvoir trouver des réponses à ça à la lumière de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous dans Éphésiens 1, j'aimerais qu'on aille regarder le motif de Dieu. Regardez les versets 4 et 5, et je vous les lis, ça va probablement être dans une autre version que la vôtre, les mots vont être un petit peu différents, vous allez voir, ça revient à la même idée. « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus. Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. » Entouré dans vos notes, dans votre feuille, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Parce que si vous deviez retenir seulement ça de la campagne des 40 jours, si pour vous Dieu est encore un étranger en quelque sorte, si vous pouvez seulement retenir que c'est parce que Dieu aime qu'il vous a créé, Dieu a suffisamment, vous a suffisamment aimé pour désirer même vous adopter en son Fils Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix parce qu'il vous aime. Et vous avez été créé pour la gloire de Dieu, comme on va le voir la semaine prochaine, mais vous avez été créé pour être aimé de Dieu. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Dieu n'avait pas besoin de vous. Dieu n'avait pas besoin de moi. Honnêtement, Dieu... Est-ce qu'il avait besoin d'Yannick pour lui tenir compagnie? Il y avait sûrement d'autres possibilités plus intéressantes que d'inviter Yannick un vendredi soir pour aller écouter un film. Dieu n'avait pas besoin de moi. Dieu a choisi de me créer, de vous créer, volontairement, afin que vous soyez ses enfants. Dieu vous a formé pour que vous soyez ses enfants. Vous avez été créé pour la gloire de Dieu. Vous avez été créé pour aimer Dieu, pour être aimé de Dieu. C'est vrai. Dieu n'a pas besoin de vous. Il l'a fait par amour. Et Dieu est amour. Il a décidé de vous placer sur la terre parce qu'il vous aime. Parce qu'il voulait vous aimer, parce qu'il voulait vous chérir. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Et Dieu vous a placé sur la terre pour faire de vous son enfant. Il vous a créé pour vous aimer. Maintenant, la deuxième question clé de la vie, c'est la question du sens. Est-ce que ma vie sert à quelque chose? Dieu m'a placé là, mais ça mène à quoi? À quoi ma vie doit servir? Et dans Ésaïe 49, on trouve Ésaïe qui se pose des questions de la même manière qu'on se les pose nous-mêmes parfois lorsqu'on est dans des moments de trouble, de difficulté. Dans Ésaïe 49, le prophète Ésaïe nous dit au verset 4, « Je me suis fatigué pour rien. C'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Ésaïe regarde ce qu'il est en train de faire, ce que sa vie est en train de produire, les résultats que c'est en train de produire, puis il dit, ça sert à rien. Ça mène à rien. Qu'est-ce que ça donne, ce que je suis en train de faire là? Et c'est légitime pour nous de se poser des questions comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Est-ce que Dieu avait un objectif? Est-ce qu'il y avait un sens à notre vie? Il y a un objectif. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un camp de prisonniers, un camp nazi, en Hongrie. Et les prisonniers qui étaient là faisaient l'entretien d'une usine de nettoyage des eaux, d'assainissement des eaux usées. Et lorsque les Alliés ont commencé à attaquer le front allemand, éventuellement, des bombardiers sont venus détruire cette usine. Complètement détruite. Maintenant, les soldats nazis, les gardes, avaient un problème. Parce qu'ils avaient tout un groupe de prisonniers qui étaient là, qui n'avaient plus aucune tâche à faire. Alors, avec beaucoup d'ingéniosité, ce qu'ils ont pensé faire, c'est leur faire transporter les débris de l'usine. C'est vrai ce que je vous raconte. Transporter les débris de l'usine juste sur un autre site. Et lorsqu'ils ont terminé de faire le transport de tout ça, bien évidemment, il n'y avait toujours rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapporté. Ils ont continué comme ça de jour après jour après jour après jour. Et les historiens nous rapportent qu'il y a un phénomène assez étrange qui s'est passé dans ce camp-là. Les prisonniers ont commencé à être tellement abattus et découragés qu'ils n'étaient plus prêts à résister et à se battre pour vivre. Parce que ce qui se faisait, ça menait absolument rien et ils ne voyaient pas la fin de ça. Ça ne faisait aucun sens. Et les historiens nous rapportent que des prisonniers ont commencé à se lancer devant les fusils des gardes. Comme pour se faire descendre par eux. Comme pour essayer de se suicider. Parce que leur vie ne faisait aucun sens. Ça ne menait à rien. Ça n'avait aucun sens. Voyez-vous, on a été créé et on aura beau dire tout ce qu'on voudra, on est toujours en quête de sens. On ne veut pas faire des choses pour rien qui vont mener nulle part. On est en quête de sens. On veut que notre vie serve à quelque chose. Et vous savez, on va tous vivre à trois niveaux différents, chacun d'entre nous sur la terre. Et je les appellerai comme ça. Le premier niveau, le plus bas, c'est le niveau de survie. Et les personnes qui sont au niveau de survie, tout ce qu'ils font, leur vie, le sens de leur vie se résume à une seule chose, survivre. Ces gens-là vivent pour travailler, réussir à survivre jusqu'au week-end, travailler, réussir à survivre jusqu'au week-end, sont toujours en mode de survie. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, la majorité d'entre nous ici, on est probablement au moins au deuxième niveau. Le deuxième niveau est quand même plus confortable que le niveau de survie, c'est le niveau de succès. Le niveau de succès, ce sont ces personnes qui ont atteint quelque chose. Et c'est vrai, probablement, la vaste majorité d'entre nous ici ce matin, on est au niveau du succès. Parce qu'en comparaison avec le reste de la terre, vous êtes immensément riches. Vous êtes confortables comparativement au reste de la terre. Vous avez atteint certaines choses, vous avez des possessions, vous avez de la liberté. Peut-être même que vous avez du succès, du prestige au travail. Et donc, vous avez atteint ce deuxième niveau-là, qui est un niveau de succès. Le problème, c'est que de plus en plus, il y a des livres qui s'écrivent pour dire « J'ai réussi dans la vie, mais je ne sais pas où ça me mène. » J'ai réussi dans la vie, mais je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. J'ai toujours pas de sens à ma vie. Et on assiste à des drames dans notre société parce qu'il y a des gens qui, Écoutez, on reste complètement surpris, on ne comprend pas. Il y avait tout pour eux. Et pourtant, leur vie ne faisait aucun sens. Leur vie ne menait à rien. Ces gens-là sont restés à ce niveau-là et jamais ils sont passés au troisième niveau, qui est au niveau du sens. Et si vous voulez vous épanouir, si vous voulez être heureux, vous devez atteindre ce troisième niveau-là. Et voici comment est-ce qu'on le fait. Premièrement, justement, en découvrant le sens de la vie dans la parole de Dieu, vous devez apprendre à savoir à quel point vous comptez pour Dieu. Et ça, ça donne un sens à notre vie. Lorsque je sais que c'est Dieu qui m'a placé sur la terre, ma vie commence à prendre un sens. Et troisièmement, vous connaissez les objectifs de Dieu pour votre vie et vous décidez de vivre en suivant ces objectifs-là. J'ai presque le goût de vous dire qu'il n'y a rien de pire que de connaître les objectifs de Dieu puis de les ignorer. Dans des termes évangéliques, je vous dirais connaître les principes de la parole de Dieu et les ignorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus triste sur la terre que quelqu'un qui sait où se trouve la réponse et qui s'en sert pas? Alors, c'est important de franchir cette dernière étape-là, de décider de s'engager à vivre selon ses objectifs. Et c'est ça qu'on veut faire pendant les 40 jours. On sait que la vie chrétienne, la vie en général, n'est pas toujours facile. Elle est débordante d'activités, de stress, d'un paquet d'affaires. Et à quelque part, si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous connaissez les objectifs de Dieu pour votre vie. Vous en avez une bonne idée, mais vous en avez échappé en cours de route. Et votre vie a pris un autre sens. Vous poursuivez peut-être plus vos objectifs à vous. Et ce qu'on veut faire pendant les 40 jours, c'est choisir d'aligner notre vie sur les objectifs de Dieu. Prendre la décision, choisir ensemble d'aligner notre vie sur les objectifs de Dieu. Et c'est à ça que ça va servir la campagne des 40 jours, juste par cet ajustement dans notre vie. Maintenant, si vous voulez savoir à quel point vous comptez pour Dieu, je vous lis un autre passage dans Ésaïe 44 au verset 2. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Et Dieu est en train de parler personnellement au prophète Ésaïe ici. Il dit, voici ce que je te déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. Dieu a formé chacun d'entre nous et il nous connaissait avant même que nous existions. Je vous lis un autre passage. Quand je n'étais qu'une masse informe, rappelez-vous tantôt, vous avez vu les images du fœtus qui est en formation, c'était touchant. Écoutez bien ça. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, en parlant de Dieu, me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est à ce point-là que vous comptez pour Dieu. Dieu vous connaissait avant que vous existiez. Dieu avait inscrit chacun des jours de votre vie dans son livre. Est-ce que vous comptez aux yeux de Dieu? Dieu vous a créé. Et il connaissait votre vie intimement avant même que vous ne viviez. Et Dieu connaît votre vie et votre avenir davantage que vous-même actuellement. C'est Dieu qui a décidé de vous former intentionnellement, volontairement. C'est Dieu qui nous a créés. Et il vous a fait, et il a fait énormément pour vous enseigner, pour vous faire découvrir ses principes dans la parole de Dieu. Il voit tout de notre vie, il la connaît parfaitement. Et pourtant, certaines personnes continuent à se poser des questions et se demandent si Dieu ne joue pas des tours, puis si Dieu reste pas silencieux. Et j'ai abordé ça la semaine dernière lorsque je parlais avec mon père. J'ai dit, je sais pas, ça aurait été plus facile si Dieu avait une ambassade dans chaque ville, tu sais, avec des anges dedans. Je suis pas sarcastique, hein. Soyons honnêtes, s'il vous plaît. Ça serait quand même plus simple si je pouvais juste aller à l'ambassade de Dieu à Longueuil, puis il y aurait des anges à la porte, puis on cogne à la porte, puis on rentre, puis on dit, regarde, il y a des choses que je comprends pas. Est-ce que je peux avoir des explications? Parce que j'ai des doutes dans mon esprit. Il me semble que, tu sais, ça serait clair. Ou juste quelque chose qui descendrait du ciel toujours, puis tu pourrais juste prendre un ascenseur, poser quelques questions, rencontrer un conseiller. Puis après ça, tu continues ta vie. Ça serait plus simple. C'est vrai. C'est des bonnes questions. Les gens se posent ces questions-là. Alors, les gens disent, oui, mais Dieu est tellement silencieux. Est-ce que Dieu a fait exprès pour brouiller les cartes, pour pas nous donner les réponses, pour qu'on sache pas où on s'en va? Non, Dieu nous a donné sa parole. Il ne voulait pas qu'on reste dans le doute. Dieu voulait nous faire connaître ses objectifs pour notre vie. Et c'est ça qu'on veut faire pendant les 40 prochains jours. On va se pencher sur plein de passages des Écritures pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et si à quelque part, lorsque je dis ces choses-là, tu peux t'identifier avec ça, moi je t'invite à embarquer. Reste pas sur le banc. Embarque sur la glace avec nous et lance ce cri-là à Dieu. Choisis ce matin de dire à Dieu pendant les 40 prochains jours, révèle-toi à moi, Seigneur. Ma vie ne fait pas de sens et je veux que ma vie fasse un sens. Amen. Je veux que ma vie fasse du sens. Et Seigneur, je te demande, viens te révéler à moi. Je veux te consacrer les 40 prochains jours. Révèle-toi à moi. Je vais fréquenter les chrétiens. Je vais m'asseoir avec eux. On va discuter ensemble. On va brasser des idées. Mais je veux découvrir pourquoi je suis sur la terre. Et Dieu va honorer cette prière-là, je vous l'assure. Dieu l'a fait dans quelques centaines de vies dans cette sphère. Dieu l'a fait dans ma vie à moi. Il s'est révélé à moi. Il a répondu à ces questions-là. Dieu dit dans sa parole, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Écoutez bien ça. Les objectifs qu'on va étudier pendant les 40 prochains jours, ce sont des objectifs qui sont tirés de la parole de Dieu. Maintenant, ce qui est important de saisir ce matin, c'est qu'ils n'ont pas une portée uniquement sur la terre. Ce n'est pas des choses que vous allez appliquer pendant encore, je ne sais pas moi, il me reste peut-être 30 ans à vivre, peut-être 40 ans à vivre si ça se passe bien, peut-être 50 ans. Ce n'est pas des objectifs que vous allez poursuivre seulement pour cette période-là. C'est des objectifs que vous allez poursuivre pendant l'éternité. Pendant l'éternité, vous allez faire ces choses-là. Et je vous invite à voir votre passage sur Terre comme une grande pratique en préparation pour l'éternité. C'est juste la maternelle ici. C'est juste la pratique avec les costumes. On est juste en train de se préparer pour l'éternité. Et ce qu'on va voir ensemble pendant les 40 prochains jours, c'est ce qu'on veut travailler pendant toute notre vie en préparation de l'éternité. C'est juste une préparation pour l'autre côté. La portion de votre vie, de l'autre côté de la mort, va être infiniment plus grande que celle de ce côté-ci. Et Dieu dit dans Psaume 33:11, comme je l'ai mentionné, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Dieu vous dit dans sa parole qu'il vous a créé pour subsister éternellement. Et je vous dirais qu'il n'y a rien de plus triste, et on l'a entendu tantôt dans le reportage, il n'y a rien de plus triste que de vivre uniquement pour ici et maintenant. Il n'y a probablement pas de meilleure manière de gâcher sa vie que de ne vivre uniquement que pour ici et maintenant. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'inquiéter pour demain. Je suis en train de dire qu'il y a des réponses pour demain, après-demain et pour l'éternité. Et on peut vivre en perspective de ça. Et il y a plein de gens qui avancent dans la vie en se disant « Non, c'est trop inquiétant, c'est trop angoissant, je ne veux pas faire face à ces questions-là, je vais vivre pour maintenant, le reste, c'est plein d'incertitudes. » Non, Dieu vous a créé et il donne des réponses dans sa parole. Dieu vous a créé et il veut vous donner des réponses dans sa parole. Vous allez passer beaucoup plus de temps de l'autre côté de la mort que de ce côté-ci. Ici, on vit quoi? 60, 70, 80 ans? C'est un petit peu comme si je traçais une ligne à partir d'ici, de Montréal, disons, jusqu'à Paris. Je traverse l'océan Atlantique. Prenez le premier millimètre, et ça n'équivaut pas encore à la durée de votre vie sur Terre en comparaison avec l'éternité. Est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter et de s'assurer que je sois chrétien, de s'assurer que je suis en train d'orienter ma vie sur les objectifs de Dieu, pas sur un paquet d'autres choses, que je n'ai pas été distrait dans ma course, mais que je suis vraiment orienté sur la parole de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine, si je ne connais pas encore Dieu, simplement de dire « c'est correct, je vais être honnête intellectuellement, puis je vais lui donner une chance. » Je suis prêt à vivre avec ça, moi, cette phrase-là. Je vais lui donner une chance. Demandez à Dieu. Choisissez ce matin de lui donner 40 jours pour dire « Seigneur, je t'en prie, si tu existes, je veux t'entendre. Fais-toi connaître à moi. Viens te révéler à moi. Viens me parler. » On va passer beaucoup plus de temps de l'autre côté. Ça vaut la peine de faire cet investissement-là. Et connaître les objectifs de Dieu pour notre vie, c'est ça la clé d'une vie qui va être heureuse et qui va avoir du sens. Je vous lis un autre passage, un de mes passages préférés dans la parole, 2 Corinthiens 5:1. Nous savons en fait que si cette tente, en parlant de notre corps physique, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voyez-vous, c'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est vivre en sachant que tout ce qui se passe ici est temporaire. Et que Dieu est en train de me préparer quelque chose de tellement plus beau, tellement plus grand. Alors, je veux vivre chaque instant ici sur la terre en regardant l'éternité. Je veux m'assurer que les objectifs qui orientent ma vie sur terre sont alignés sur l'éternité. Parce que je sais que Dieu est en train de me préparer quelque chose de tellement plus glorieux. Où je n'aurai pas à crier encore à Dieu, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? À quoi ça mène tout ça? Qu'est-ce que ça donne, toutes ces tuiles-là qui me tombent sur la tête? Il n'y aura plus ces questions-là de l'autre côté. Dans la mesure où je suis avec Dieu. Dans la mesure où j'ai cru en son Fils Jésus-Christ. vais être avec lui pour l'éternité. Et Dieu est en train de me préparer une place. Dieu est en train de me préparer ça. Alors, l'autre question qui vient, évidemment, c'est la suivante. Quel est mon but dans la vie? Quels sont mes objectifs dans la vie? Et dans le psaume 89, 47, David pose une question. Il dit, « Et pour quel néant as-tu créé tous les hommes? » David est impressionnant parce qu'il est en train de parler avec Dieu ici. Et lorsqu'on croit en Dieu, tu te demandes pourquoi Dieu n'a jamais frappé David. On a vu Dieu corriger des gens. Il me semble qu'il avait fait beaucoup moins que ça. Mais David était sincère et Dieu appréciait de voir la sincérité de son cœur se manifester. Et il dit, « Et pour quel néant, pour quelle souffrance, pour quelle inutilité as-tu créé tous les hommes? » Évidemment, ça ne s'arrête pas là dans le cœur de David parce que David revenait toujours à Dieu. Mais écoutez bien ce que le philosophe Bertrand Russell a dit. Philosophe anglais, il se disait athée. J'ai trouvé ça très impressionnant comme réflexion. À moins que vous ne supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et de l'objectif de la vie n'a pas d'intérêt. Je vous répète ça. À moins que vous ne supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et de l'objectif de la vie n'a pas d'intérêt. Voyez-vous, si Dieu n'existe pas, c'est même pas important de se poser la question. Si Dieu n'existe pas, on est juste des accidents de la nature. On est comme un tas de boîtes un peu plus complexe. C'est vrai? C'est vrai? Moi, c'est ça qui m'a amené à dire, ça se peut pas, Dieu est là, Dieu existe. Je le sais parce que la nature me dit que c'est pas juste un accident. Je sais qu'il y a un créateur derrière ça. Et je me suis toujours interrogé avec ça, parce que je disais, non, il y a une intention derrière. Et alors même que je discutais avec mon père, j'ai dit, père, OK, les Écritures, OK, t'es peut-être pas rendu là, c'est correct, je comprends. Mais d'après toi, là, mon père, c'est un chasseur, hein, je vous en ai déjà parlé, malade des chiens. Puis il y a un superbe chien de chasse, en tout cas. Un super de mon chien de chasse. Une machine. Fait que je dis, d'après toi, père, là, Pif, là, il s'appelle Pif. J'ai dit, d'après toi, Pif, là, est-ce que c'est vraiment juste comme c'est un paquet de molécules qui a été tiré dans les airs et boum, c'est tombé super bien organisé comme ça? Ou est-ce que d'après toi, il y a quelqu'un quelque part qui avait une intention? Il a voulu organiser ça pour que ça marche de même, cet tas de molécules-là. Mais mon père a dit, c'est certain qu'il y avait une intention derrière ça. C'est sûr. C'est sûr. Il n'est pas rendu où je suis rendu. Il n'est pas prêt à dire que ce Dieu-là est personnel et qu'il s'est fait connaître à travers Jésus-Christ, son Fils, qui nous a donné sa parole. Mais mon Père, lorsqu'il regarde la nature, dit, il y a une intention derrière ça. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Et voyez-vous, si on ne croit pas que Dieu existe, si on ne croit pas qu'il y a quelqu'un qui a voulu ces choses-là, la vie mène à rien. Honnêtement, je vais être cru, quelqu'un peut rentrer ici, il peut vous tuer. Ça ne change absolument rien. C'est juste quelques molécules de plus étendues sur le plancher. C'est vrai. Aucun sens. Je m'excuse d'être cru, mais c'est vrai. Ça ne change absolument rien. Vous vivez, vous mourrez, on vous oublie, c'est fini. Il y en a un autre qui va arriver de toute façon. C'est vrai. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de sens à la vie. J'ai trouvé ça génial de voir que ce philosophe-là, qui se dit athée, était assez honnête intellectuellement juste pour l'admettre. Mais Dieu existe. Dieu est là. Dieu s'est fait connaître. Il s'est révélé dans sa création. Il s'est révélé dans la nature. La parole de Dieu nous dit que chacun d'entre nous, on a cette pensée en nous-mêmes, ce sentiment, cette conviction qu'on va vivre éternellement. Et c'est là, quelque part, à l'intérieur de vous. Et Dieu a placé ça dans votre cœur. Dieu existe. Il s'est fait connaître à travers sa création. Maintenant, Dieu n'est pas resté silencieux après ça. Il a fait un pas de plus et il nous a donné sa parole pour le connaître personnellement. Et comme l'a très bien illustré Jean-Paul tantôt avec sa leçon de choses, si je ne comprends pas l'utilité d'un objet, si je ne comprends pas à quoi ça sert, puis ça a l'air complexe, c'est quoi la meilleure manière de le connaître, de comprendre à quoi ça sert? Allez voir l'inventeur. Allez voir l'inventeur. S'il n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas une ambassade dans toutes les villes, ben allez voir le manuel d'instruction. Prenez la parole de Dieu. Et vous allez pouvoir connaître le Créateur, celui qui vous a placé sur la terre. Et là, vous allez pouvoir découvrir le sens et l'objectif de votre vie. À quoi votre vie doit servir? Dans Proverbes 9:10, on lit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Tournez avec moi dans Genèse 1:1. Genèse 1:1, ceux qui ne sont pas familiers, premier livre de la Bible, premier chapitre, premier verset. « On ne lira pas beaucoup. On ne lira pas beaucoup, beaucoup dans Genèse 1:1. Mais c'est très important. Parce que Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a placé ces mots-là. Quatre mots dans ma version. Au commencement, Dieu créa. On s'arrête là. Tout commence avec Dieu. L'univers qui nous entoure a commencé avec Dieu. L'univers qui nous entoure est soutenu par la grâce de Dieu. Et tout va terminer avec Dieu aussi. Parce que tout a été créé par lui et pour lui, pour sa gloire. Et si vous voulez trouver une réponse au sens de votre vie, vous devez commencer par Dieu. Et c'est pour ça que les Proverbes disent « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Maintenant, je sais qu'on est tous à différentes étapes dans notre cheminement spirituel. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, je suis en train littéralement de prêcher à des convertis. Je suis conscient de ça. Mais pour d'autres ici ce matin, jusqu'à aujourd'hui dans votre vie, vous avez décidé de suivre vos propres objectifs. Moi, j'avais été exposé à l'enseignement de la parole de Dieu dès l'âge de 7 ans. Tantôt, quand on récitait le verset ensemble, là, j'avais l'impression d'être à l'école du dimanche. On récitait des versets comme ça. Fait que moi, j'ai connu le manuel d'instruction très, très tôt dans ma vie. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai regardé tout ça, puis j'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Je suis capable d'en inventer un vraiment plus trippant. C'est ça que j'ai fait. Puis j'ai dit, j'ai pas besoin des objectifs de Dieu dans ma vie, je vais avoir mes objectifs à moi. Et j'ai décidé d'emprunter cette voie-là jusqu'à l'âge de 18 ans. De suivre mes objectifs. Peut-être que vous êtes là ce matin. Jusqu'à aujourd'hui, dans votre vie, vous avez poursuivi vos propres objectifs. Peut-être que vous avez parfois entendu parler de Dieu de loin. Des gens autour de vous ont commencé à vous parler du Seigneur. C'est normal. Dieu place sur votre route des gens qui peuvent vous parler de Jésus-Christ, de la croix. Dieu nous poursuit en quelque sorte. Dieu court après nous. Place sur notre chemin des chrétiens qui nous parlent de lui. Des émissions à la télévision, vous tombez sur des choses. Il se passe des circonstances dans votre vie, des événements, puis vous dites, il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça en fin de compte. Autrement, ça ne fait aucun sens. Mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez décidé de poursuivre vos propres objectifs. Et c'est ça qui a dirigé votre vie. Moi, je veux vous inviter ce matin à trouver la sagesse. Et la sagesse se trouve auprès de Dieu. Vous devez choisir à un moment dans votre vie, comme je l'ai fait, comme plein de gens l'ont fait ici. Vous devez choisir à un moment dans votre vie que les réponses, vous ne les chercherez plus dans des cours d'épanouissement personnel, dans des séminaires, dans toutes sortes de lectures, ou simplement en écoutant votre moi intérieur, mais que vous allez décider que les réponses, vous allez les trouver auprès de Dieu, dans sa parole. Et il va vous donner des réponses. Mais ça demande un jour précis dans votre vie où vous prenez la décision, vous choisissez de donner une chance à Dieu pour qu'il se révèle à vous. Et Dieu va le faire. Dieu va venir vous rencontrer. Dans la parole de Dieu, en d'autres termes, on appelle ça la repentance. La repentance dans la parole de Dieu, c'est changer de voie, changer de direction. Et toutes les personnes qui sont venues à la connaissance personnel de Jésus-Christ, qui ont connu les objectifs que Dieu avait pour leur vie, ont un jour dit, « Seigneur, jusqu'ici, je marchais sans toi, sans vouloir t'écouter, sans vouloir te porter attention, sans vouloir être attentif à ce que tu avais à dire. » En termes bibliques, on appelle ça de la rébellion. Rebelle contre Dieu. Je vais suivre ma voie. Après tout, je ne suis pas plus fou que les autres. Je vais m'inventer ma propre voie. Et un jour, chacune des personnes ici qui a donné sa vie à Jésus-Christ a pris la décision de se repentir, de changer de voie et de dire, « Seigneur, j'étais dans l'erreur. Je péchais, je m'éloignais de toi, je fuyais ta face. Je ne voulais pas être soumis à Dieu. Non, j'avais décidé que ça allait être ma vie, c'est moi qui allais la diriger. » Mais chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, un jour a choisi de changer de voie. Et de dire, à partir de ce jour-ci, je vais être attentif à Dieu. Et je vais aller le connaître dans sa parole. Revenez avec moi dans Éphésiens 1. Et je vais terminer sur ce verset ce matin. Revenez avec moi dans Éphésiens 1, les versets... On va juste s'arrêter sur le verset 5 cette fois-ci. Dieu dit, dans Éphésiens 1:5, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler de Dieu, de son amour pour nous. « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Voyez-vous, non seulement vous comptez pour Dieu parce que c'est Dieu qui vous a formé, c'est Dieu qui vous a créé. Non seulement Dieu a voulu vous faire connaître le sens de votre vie en vous donnant des objectifs pour votre vie à travers sa parole. Non seulement cela. Mais Dieu vous a aimé jusqu'à envoyer son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Et le plan de toute éternité, c'était ça. C'était que ce Fils allait venir sur la terre et qu'il allait mourir sur une croix. Et je sais que si vous n'êtes pas tellement familier avec la foi chrétienne, vous trouvez qu'on fait une bien grosse affaire avec la croix. Vous dites, ils sont tellement pognés sur cette affaire-là, la croix, Jésus, Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu et qu'il a ouvert ses bras, grand comme ça sur la croix, il est venu s'offrir en sacrifice. La parole de Dieu me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est de ça dont Paul est en train de parler lorsqu'il dit ici que Dieu a voulu nous adopter. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu nous adopter par son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il a fallu ce sacrifice pour que toute cette rébellion de Yannick qui a couru pendant des années a dit « Non, Dieu, j'ai rien à faire avec toi. Moi, ce que je veux faire, c'est poursuivre mes propres objectifs. J'étais en train de pécher contre Dieu. J'étais en train de pécher. J'étais rebelle à Dieu. Je voulais rien savoir de lui. Moi, j'avais même pas d'excuses. Je connaissais le manuel. Et j'en avais rien à cirer de Dieu, honnêtement. C'était des affaires pour ma mère, ça, puis qui va à l'église, puis qui prie, puis tout ça. Mais c'est de la rébellion dans mon cœur qui est en train de s'exprimer là. Je suis en train de pécher contre l'Éternel. Et Dieu me dit qu'il m'aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Volontairement, Jésus s'est offert sa vie sur la croix. Son sang a été versé pour le pardon de mes péchés. Maintenant, si c'est la première fois que vous entendez ça, ça doit sonner étrange un petit peu. Du sang versé, c'est bizarre. Pourquoi il faut qu'il y ait du sang qui coule? Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Je vous l'ai dit, Dieu nous prépare une place au ciel. Il nous prépare une place au ciel dans sa présence, tout près de lui. Mais pour que je puisse aller dans sa présence, il faut moi-même que je sois pur, que je sois lavé. Et c'est en plaçant ma foi en Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix, que mes péchés sont pardonnés. Et toutes les personnes autour de vous qui ont choisi un jour de devenir chrétien, c'est là qu'ils ont choisi de placer leur foi. C'est dans le sacrifice de Jésus-Christ. Je veux vous inviter ce matin à vous joindre à nous pour la campagne pendant 40 jours. Et peut-être que pour vous, c'est là que vous êtes. Vous dites, bon, ça a l'air intéressant votre affaire, mais je ne suis pas sûr que j'y crois encore. C'est encore bizarre un peu tout ça. Vous croyez dans un livre qui vient à travers les siècles, puis qui a eu toutes sortes de copies, puis tout ça, tous les arguments qu'on entend. Mais vous êtes assez honnête intellectuellement pour dire, hey, moi, là, par exemple, là, je veux explorer ça cette fois-là. Alors, peut-être que c'est la seule décision que vous allez prendre ce matin. Vous allez dire, je suis prêt à donner une chance à Dieu, je vais embarquer puis je vais explorer la foi chrétienne. Et il va y avoir des gens autour de vous qui ont fait le même cheminement que vous, qui humblement ont trouvé des réponses tranquillement dans la parole de Dieu, qui vont pouvoir vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est embarquer avec nous. Et pas trop tard, on commence ce matin. Après le service, vous pouvez aller à la table où vous pouvez vous procurer le livre « Une vie, une passion, une destinée ». Vous pouvez vous joindre à un groupe, et c'est extrêmement important. Vous ne voulez pas faire ce voyage-là tout seul. Alors, vous pouvez encore ce matin vous joindre à un groupe, il y a une autre table, et vous vous présentez là. Et les personnes ce matin qui animent des groupes, qui ont encore de la place dans leur groupe, les gens qui ont offert leur nom pour être animateurs dans des groupes, dans les maisons, je vous invite à aller à la table après le service. Parce qu'il y a des gens qui vont aller là, qui ne se sont pas encore joints à des groupes. C'est excellent, allez-y, vous allez pouvoir accueillir d'autres personnes avec vous. On commence cette semaine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre la décision de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, d'aller vers lui et de dépendre de lui. Ensuite, prendre la décision d'écouter les messages de la parole de Dieu. Ça va être placé sur le site internet de l'Église. Tantôt, on avait l'adresse qui était là, ebel.qc.ca. Vous allez sur le site de l'Église, vous allez trouver des prédications si vous ne pouvez pas être ici. Mais prenez la décision de venir ici dimanche matin. On a eu du bon temps de louange ce matin. Hein? C'était bon, la musique était édifiante. C'était rempli de joie, j'étais content. Et on prend le temps dans la parole de Dieu. Et enfin, prenez le temps, comme Jean-Paul le mentionnait, de mémoriser la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais m'adresser à la majorité d'entre vous. Ceux qui sont peut-être nouveaux chrétiens. Je suis content que vous ayez l'opportunité de commencer votre vie chrétienne avec un projet comme ça. Vous allez commencer votre vie chrétienne beaucoup mieux qu'un paquet d'entre nous. Parce que vous allez pouvoir décider, en commençant votre vie chrétienne, de vivre selon les objectifs de Dieu. Et on va passer beaucoup de temps dans la parole. Maintenant, peut-être que vous êtes chrétien, ou vous vous dites, ben, je dis que je suis chrétien, mais honnêtement, j'ai pas mal reculé par rapport à la foi. Et à quelque part, dans le processus, j'ai décidé d'avoir mes propres objectifs. Il y a des choses que j'ai mis de côté. J'ai été déçu, j'ai été blessé, j'ai été déçu par l'Église. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici ce matin, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans une Église évangélique. Vous avez peut-être été déçu. Moi, je vous invite à chercher la face de Dieu parce que vous savez que le bonheur se trouve auprès de Dieu. Et pour tous les autres, vous êtes chrétiens, vous marchez avec le Seigneur depuis longtemps. Mais vous avez peut-être échappé des balles. Puis lorsque vous considérez votre vie chrétienne, des fois vous avez le sentiment qu'elle n'est pas à la hauteur, un peu médiocre. Comme un de mes amis le disait dernièrement, il dit « Moi, je considère que je suis un chrétien ordinaire. » Très ordinaire. Mais Dieu nous invite à être pas mal plus qu'un chrétien ordinaire. À vivre une vie abondante en Jésus-Christ. Et pour ça, il va falloir que je m'applique de tout mon cœur à poursuivre les objectifs de Dieu pour ma vie. Je vais inviter mon épouse à venir faire un chant. Je vous invite à écouter les paroles.